C'est pour les élections, vous êtes au courant ?
Le témoin de ce vendredi, Laurent Le Gall, à quoi tient un vote ?
En politique, comme tu dis, le plus grave, c'est d'être en retard pour la visite des HLM.
Vous croyez qu'ils ont su le tract ?
Ah ben, ça va être la surprise. Alors, d'après nos tuyaux, vous avez un admirateur. Alors, escalier, troisième étage.
Ça a l'air plutôt vivable, hein ? Quand on pense à ce que c'était il y a 4 ans.
Bah absolument, vous pouvez entrer la tête haute.
Ça commence bien. Plus ils sont pauvres, plus les chiens sont gros et méchants.
Pas de panique.
Qu'est-ce que c'est ?
Bonjour madame.
Eh, ouvre donc ! Non, Thérèse, ouvre-moi cet avorton.
On aura reconnu un film de Chabrol, La fleur du mal. Au candidat, comme à Nathalie Baye dans ce film, il est demandé de déployer des compétences qui vont en faire des professionnels. Il faut savoir toquer aux portes, serrer les mains et répondre aux questions les plus diverses sur le prix d'un pain au chocolat ou d'un réacteur nucléaire. C'est de plus en plus difficile, d'autant qu'il convient maintenant de fournir aussi le justificatif de toutes ces emplettes. La tâche d'autres professionnels des élections, je veux dire les professionnels du commentaire, n'est pas aisée non plus. Il leur est demandé, sinon de prévoir les résultats, du moins de les éclairer. À cet effet, ils ont constitué en série des observations sédimentées par des milliers de scrutins, le vote local, le vote confessionnel, le vote de classe, etc., etc. La redistribution actuelle des cartes les laisse de plus en plus perplexes. Le vote relève de la tradition, ou au moins de l'habitude, et ses formes sont un rituel bien établi. Mais ce qui peut paraître comme une évidence est en réalité une énigme. En politique comme en économie, sous le formel, il y a l'informel. Derrière le continu, il y a le discontinu. L'urne, en fait, c'est une boîte de Pandore qui contient certes des bulletins de papier, mais aussi beaucoup d'intentions obliques. Pour la vider complètement, il faudrait explorer le fort intérieur de chacun d'entre nous.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Laurent Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Votre dernier livre, à voter aux élections, Anna Moza. Pour que nos auditeurs sentent que vous êtes un historien patenté, même si vous allez être aujourd'hui un électeur un peu impudique, on peut rappeler un autre titre sur le Finistère. Vous enseignez à l'université de Brest.
J'enseigne à l'université de Brest et donc un autre titre, L'électeur en campagne, une seconde république dans le Finistère qui traitait des élections entre 1831 et 1852.
C'est dire si cette émission va être sérieuse. Alors quand on parle du vote, on évoque la mémoire du vote, la République, et un parcours fléché depuis sa naissance. Certains insistent beaucoup sur les références de l'Antiquité, sur une mémoire longue. Et quand vous interrogez votre propre mémoire, Laurent Le Gall, vous avez voté pour la première fois ?
En 1986, c'était dans une commune qui était une commune périurbaine de Brest, mes parents y habitaient, et cet acte est un acte nébuleux dans mon souvenir, ce n'est pas du tout un acte initiatique comme on peut l'imaginer, un dispositif qui était rudimentaire, j'ai voté dans une annexe d'une école, il y avait quoi ? Il y avait l'isoloir, il y avait des assesseurs, j'ai dû mettre 2 minutes entre le moment où j'ai pénétré dans la salle et le moment où je suis revenu dans ma voiture. Et
vous n'avez pas eu le sentiment, vous inscrivant sur les listes électorales, à un moment dont vous avez un souvenir précis, de vous agréger à la communauté nationale ?
Pas du tout. Je crois que on est là dans une forme de doxa, qui est la doxa républicaine, qui est la doxa, on va dire, de la démophilie ou de la démopédie, de cet amour du peuple. Et en même temps, lorsque l'on commence à interroger des personnes sur leur première fois électorale, j'entends, on constate qu'ils l'oublient, qu'ils n'en ont qu'un souvenir mesuré, et qu'il n'y a pas effectivement cette espèce de rituel d'agrégation à une communauté telle qu'on nous l'enseigne, ou telle qu'on nous l'a enseigné dans les manuels en particulier de la Troisième République.
Vous suggérez que pour faire une bonne émission de radio, il faudrait mieux évoquer la première fois en matière sexuelle, par exemple. Les souvenirs sont plus précis.
Écoutez, je ne sais pas, tout dépend du nombre de partenaires.
Bon, alors nous allons parler de polyélection, pas de polyamour là, à cet instant précis, parce que il vous est arrivé, avant de voter pour la première fois en 86, de vous présenter à des élections, et vous étiez tout petit, c'était en classe de 6e.
Je me présente comme délégué car je n'ai pas eu cette chance l'année dernière. J'ai toujours voulu aider les autres et avoir une autre identité. Je n'hésiterai pas à aider chacun d'entre vous.
Bonjour, j'aimerais être délégué pour défendre vos idées et je ferai tout mon possible pour résoudre vos problèmes. Et ensemble, j'espère qu'on fera le meilleur pays de classe possible, qu'il n'y aura pas de bagarre et puis que ça se passera bien entre nous. Voilà. Merci d'avance.
Je m'appelle Laurent, mais j'ai pas eu le temps de préparer.
Le Laurent en question, c'est dans un reportage de France 5 en 2003 à Juvisy. C'est pas vous. Vous avez trouvé les mots. Les autres candidats sont malins. Hein. Ils veulent pour l'un avoir une autre identité, pour l'autre souhaiter bonne chance aux autres. Vous avez trouvé les mots et vous avez été élu.
Écoutez, à l'époque, on est à la fin des années 70 et il n'y avait pas vraiment les mots pour le dire. Je me souviens m'être présenté avec quelques camarades. J'ai été élu au terme d'une stratégie vraisemblablement rudimentaire où j'ai compté le nombre de mes copains qui allaient voter pour moi. Donc on était plutôt dans une stratégie clientéliste. Reste que lorsque, là encore, on interroge la plupart des personnes, des citoyens, comme l'on dit, on constate que la première fois, c'est effectivement la première fois lors des élections des conseils de classe. Et que cette dimension-là, c'est une dimension qui rappelle que l'élection n'est pas que l'élection politique, mais qu'on est appelé à avoir un apprentissage qui excède l'inscription dans un espace politique tel qu'on l'imagine à partir des seules élections politiques.
Alors, les élections locales sont-elles des élections politiques ? C'est par là que s'est fait l'apprentissage en France, dans le cadre de la commune, avant même qu'il n'y ait des élections au suffrage universel masculin en 1848. Sous la monarchie de Juillet, on l'a élargi le suffrage, le sens, l'impôt qui permettait de distinguer les électeurs capables des autres, a été non pas aboli, mais reconsidéré et les élections des maires se sont faites avec beaucoup d'électeurs.
C'est toute l'ambiguïté et tout l'intérêt de la monarchie de Juillet. Avant 1848, effectivement, il existe un suffrage censitaire pour les élections municipales qui permet à 3 millions de Français et non pas à 250 000 qui pouvaient uniquement voter pour les élections donc générales de voter. Alors, c'est lié à l'idéal guizotien, l'idéal doctrinaire, à savoir qu'on va créer une élite qui pourra progressivement mariner aux affaires politiques. Ce que l'on constate, c'est que cet apprentissage, c'est un apprentissage qui est mesuré, qui est distinct en fonction des positions sociales. Et donc, tout ce travail d'accoutumance, d'apprentissage, d'acculturation fait qu'en 1848, lorsque 10 millions de Français sont appelés à voter à la suite du décret du 5 mars 1848, il y a à la fois, on va dire, une augmentation du nombre de ceux qui peuvent voter. Il y a une transformation du champ politique, puisque désormais, tout le monde peut intégrer l'espace politique national et qu'il y a là aussi des effets de mimétisme.
On vote pour faire comme les autres et c'est l'habitude qui crée le vote. Sous le Second Empire, le suffrage universel est maintenu, il est complètement encadré, manipulé, falsifié, mais l'habitude s'enracine et va pouvoir donc se déployer sous la Troisième République. On reste au niveau des maires, la République au village, disait votre maître Maurice Agulon. Je voudrais vous faire entendre un extrait d'un film que vous évoquez. Éric Rohmer, il n'a pas la réputation de faire beaucoup de films politiques. Néanmoins, l'arbre, le maire et la médiathèque, ça apprend beaucoup.
C'est juste. Ça apprend beaucoup. Rohmer, donc, filme en 1992 un village. C'est le village de Saint-Juir. Alors, il y a à la fois tout le travail de Rohmer, styliste, mais il y a aussi un rapport qui est un rapport très sensible dans le cinéma de Rohmer, qui est un cinéma documentaire. Et l'histoire, c'est l'histoire donc d'un jeune loup du Parti Socialiste qui a été battu aux élections régionales. Il est maire, il a tout du châtelain, il vit dans un très très beau château et il prépare la revanche, hein, parce qu'en politique on n'est jamais mort, comme vous le savez. Et il prépare cette revanche en désirant effectivement devenir député.
Et il faut passer, après l'échec au régional, par les cantonales, et c'est l'échec pour Pascal Grégory, l'interprète du maire, au cantonal aussi. Mais il est entouré par ses mandants, manants, et voici comment ils réagissent.
Alors on va boire, on va tous boire, hein. Moi, j'aurais bien aimé boire.
Ça fait d'humeur.
Ah, merci. Mais j'aurais bien aimé boire à ma victoire électorale. Mais bon, hein, ce sera l'année prochaine aux législatives.
Ouais. Espérons-le.
Bah, on sait bien que le canton est réac. Hein, mais bon, la circonscription est à gauche et pour le progrès. Bon, il n'y a aucune raison que ça change.
Ouais, hein. Monsieur le maire, vous avez quand même fait un beau score au cantonal.
Vous avez déjà eu un bon résultat.
Merci.
Un bon résultat.
À nous tous et à vous.
Oui. Et
à monsieur le maire.
À une santé.
À une santé qui nous est chère.
C'est le monsieur le maire.
C'est le monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Après nous, on monte
de alors.
Allez, oh.
Faut le tirer.
Allez,
oh.
Et tirez en arrière.
Non, il faut le tirer en arrière.
Allez.
Encore en arrière.
Ça va.
Trop profond, là.
Oui,
toi,
ça va
partir.
On le redescend, non? On va mettre de la terre dessous.
Oui, on va mettre de la terre dessous.
Attention là-bas. Oh là là, les fils, attention qu'ils ne tombent pas sur les fils.
T'as vu comment on fait dégager quelqu'un? Hein? Ça va pas, c'est plein de bêches.
Et là, on est dans un reportage de Carole Peiter pour Marche ou rêve de Claude Villers. Qu'est-ce que c'est cette scène?
La scène que l'on entend, c'est la scène d'une maillade, une maillade. Donc, dans le sud-ouest, on va élever des mets à la suite, donc, de l'élection d'un conseiller municipal ou d'un maire. C'est-à-dire qu'une fois l'élection faite, on va découper un arbre et on va le présenter, on va l'élever devant la maison du maire ou sur le terrain qu'il possède. Généralement, il est pavoisé, il y a un drapeau, il y a un écusson où on voit honneur à notre maire et on trouve cela dans les Landes, en Dordogne, dans le Lot. C'est une pratique, coutumière.
Inversement, s'il avait été dans les Landes, Pascal Grégory aurait pu être représenté, après sa défaite au cantonal, par un mannequin qu'on jette dans la rivière.
Tout à fait.
Ça arrive en Bretagne aussi.
Ça arrivait en Bretagne à la fin du 19e siècle. C'est Paul Sébillot qui va être un des grands leaders du folklorisme, qui va s'intéresser au folklore électoral et qui montre que dans les rapports que les gens entretiennent avec le politique ou la politique, il y a besoin de matérialité. Ce que montrait très bien aussi Maurice Agulon, effectivement, vous l'avez cité dans La République au village, où il montre que dès les années 1830, et en particulier sous la Seconde République, les charivaris, les fêtes sont des moyens d'expressionnisme politique. C'est-à-dire qu'à côté de ce que l'élection organise, un pivot démocratique, un espace politique réglé, il y a des formes qui sont des formes externes, adventistes, non conventionnelles, et que ces formes non conventionnelles permettent de créer d'une certaine manière une dilatation de cet espace politique.
Alors il y a le répertoire politique, et puis peut converger avec d'autres répertoires, par exemple celui du folklore. Autre souvenir, Laurent Le Gall, parce que la chanson populaire s'est emparée de l'élection. Et votre grand-mère chantait à propos des élections?
Ma grand-mère chantait une chanson que son père, qui était illettré, lui avait apprise dans les années 1920. Elle lui lisait le journal, il aimait la politique, elle me racontait cela. Et donc cette chanson, c'était Pipi et Franchic, hein, donc Pierre et François en breton. Qu'est-ce que tu dis, François, du gouvernement? Le commerce va mal pour le paysan. Elle se souvenait de ces deux vers. On était donc en 1992 et la chanson est évidemment un des moyens de faire valoir des sentiments politiques, des émotions politiques, mais aussi de traduire un rapport qui est un rapport social aux politiques. Hein. Ce sont des chansons que l'on retrouve dès le 19e siècle en Bretagne, mais partout ailleurs, où il y a effectivement des répondants et qui permettent de mettre en musique et en chanson des programmes politiques.
Sur la recommandation de Martin Pennet, puisque la chanson populaire a partie liée avec l'élection, un pastiche d'une vedette que vous reconnaîtrez, un pastiche signé Suzanne Gabriello.
Votez un bon. Qu'est-ce que j'ai fait du papier qui me dit d'aller voter? Des bulletins que mon voisin m'a remis hier matin en me disant, lisez tout, faites votre choix et ne vous en moquez pas. Votez un bon. Où est l'adresse du bureau? Où sont les clés de mon auto? Où est donc l'isoloir où je dois faire mon devoir? Oui, je sais, je perds tout, mais pas mes droits. Et ne vous moquez pas de moi. Votez un bon. Quel nom m'a dit mon mari, mon père, ma meilleure amie, ma belle-sœur de Hambourg et ma tante de Saint-Four? Où sont donc les photos des candidats? Ah oui, ça y est, les voilà.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
32, Madame Baron, épouse Simon, Yvonne.
Beaucoup de personnes ont leur carte d'électeur. J'ai remarqué ça aujourd'hui, que même dans une petite commune, les gens viennent avec leur carte d'électeur pour la grande majorité.
Et sinon, ils venaient sans leur carte d'électeur ?
Ils venaient sans leur carte d'électeur, ils venaient avec la carte d'identité. Mais par rapport aux élections municipales, par exemple, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont fait, qui sont donné la peine de rechercher leur carte d'électeur pour venir. Donc, c'est bien, c'est bien. On leur dit qu'ils sont de bons citoyens, parce qu'ils ont sans donner la peine de chercher leur carte.
À voter, c'est le titre du livre que publie chez Anna Moza Laurent Legal, qui est notre invité, qui est historien, qui reconnaît aussi ce son qui ouvre la deuxième partie de l'émission qui va être consacrée au thème de l'élection de papier. Ce son, c'est vous qui l'avez produit à France Culture.
C'était en 2002, un documentaire pour Le Monde en Soi. On nous avait demandé de couvrir la campagne de 2002, la campagne présidentielle, et pendant plusieurs mois, nous avons arpenté une bonne partie du Finistère, du côté de Pont-l'Abbé et de l'Andivisio. Et nous avons essayé de savoir ce qu'était l'élection, hein, du côté de l'électeur, le sens que l'électeur, ou les électeurs plutôt, pouvaient donner à cette élection.
Il faut quand même dire, pour faire un portrait à peu près complet de vous, que vous êtes passionné depuis toujours par la radio et qu'à Brest, vous animez un festival annuel qui s'appelle Longueur d'onde et qui est consacré à la radio.
Une autre partie de mon identité.
Oui, que vous avouez dans votre livre. L'élection de papier. On entendait là évoquer la carte d'électeur. Quand apparaît la carte d'électeur ?
Alors, il y a eu des cartes d'électeur dès qu'il y a eu des élections. Donc, dès la Révolution française, il existe des cartes d'électeur. Il y en a en 1848, il y en a sous le Second Empire. Elle est véritablement formalisée en 1884, par la loi, donc la grande loi municipale du 5 avril 84, qui exige que désormais les municipalités puissent donc faire imprimer et parvenir des cartes d'électeur. Sauf que la carte d'électeur n'est pas obligatoire. Elle atteste que vous êtes inscrite. Que vous êtes inscrit sur une liste électorale, mais la carte d'identité est suffisante pour voter. Ce que ça montre surtout, c'est que l'élection est un véritable dispositif. Alors, un dispositif qui apparaît comme rudimentaire, une table, une liste électorale, les papiers officiels qui rappellent effectivement ce qu'est le code électoral. Il y a derrière cela, derrière l'acte de vote, aussi une matérialité, c'est-à-dire que jusqu'aux machines à voter qui existent dans une soixantaine de communes aujourd'hui et qui finalement...
Dont la vôtre.
Dont la mienne, hélas, pourrais-je dire, qui enregistre une forme de digitalisation, on va dire, de la démocratie. L'acte, c'est d'abord un acte qui était un acte soit d'écriture, on pouvait biffer, on pouvait raturer, on pouvait faire des bulletins nuls, et le bulletin nul, c'est à la fois le bulletin de l'incompétence politique pour certains, mais c'est aussi le bulletin de l'hyper-subjectivation politique pour
d'autres.
Alors
parlons un peu de vos souvenirs de bulletins nuls.
Un bulletin nul, effectivement, j'en ai fait un dans ma vie. J'en ai fait un dans ma vie en 2001 pour des élections municipales. Il s'agissait de sanctionner le ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Claude Allègre. Nous étions très très remontés contre effectivement ce ministre.
Mais quel rapport avec les élections municipales ?
Et finalement, le vote était entendu comme un vote de sanction. Donc, une des façons de ne pas être d'accord et de prouver que l'on n'a pas oublié d'une certaine manière ce que l'espace politique fait de vous, c'est de voter. Et
mais c'est un vote oblique.
C'est un vote oblique, on peut dire cela. C'est aussi un vote d'affirmation. C'est un vote qui n'apparaît pas comme le vote tel qu'on l'imagine, à savoir que vous avez une offre politique et le citoyen va s'exprimer en fonction de cette offre politique. C'est quelque chose d'à côté, mais qui permet effectivement de dire autre chose aussi que ce que les programmes veulent faire dire.
L'année d'après, Laurence Bloch, il faut quand même faire du name dropping dans cette émission. C'est la directrice de France Inter aujourd'hui, vous commande donc cette émission sur la présidentielle dans le Finistère. Et on va parler, puisque l'élection est faite de papier, du tract. On en conserve beaucoup dans les archives municipales, des tracts ?
On ne conserve pas tant
que
ça.
Les archives départementales.
On conserve pas mal pour la Troisième République, beaucoup plus compliqué pour la Quatrième et la Cinquième, difficile d'accès.
Ce militant du RPR que vous suivez dans un village près de Landivisio distribue des tracts pour Chirac.
Tout à fait. C'est à l'époque un membre de l'UMP.
Non, plutôt du RPR, le RPR.
Du RPR, oui. Effectivement.
C'est un on membre s'y perd, du RPR. Dirait Suzanne Gabriello.
Effectivement. C'est un membre du RPR. Et on part de bon matin faire une tournée électorale. Et ça reste un très très bon moment.
Les réunions étaient assez sympathiques avec des mélanges de. Tiens, salut Dom! Avec des mélanges, des échanges plutôt verbales dans tous les sens. Mais là, il y avait des vraies réunions politiques. C'est pas les réunions comme maintenant qui sont, pour employer le terme à la mode, soft.
Il n'y a pas de boîte aux lettres?
Ouais, ça c'est gênant. Ça. Quand tu n'as pas de boîte aux lettres, on ne sait pas où le mettre, pas que ça soit perdu.
Vous ne sonnez pas?
Non, c'est pas la peine. Il y a encore relativement tôt pour les gens qui ne travaillent pas. 10h du matin, samedi, il faut leur laisser le temps de se reposer. Hop. Il y avait débat, quoi. Surtout, c'est ça. Là, maintenant, il n'y a plus débat. Maintenant, on vient écouter le candidat et c'est tout. Il y a eu une époque où on s'amusait même à aller écouter, aller voir les candidats de la gauche, quoi, puisque. Et exprès de mettre le chahut dans leur réunion politique, à arriver avec des questions très pertinentes pour qu'ils ne puissent pas faire des actions et établir leur programme, ce qu'ils appelaient à l'époque le programme commun. Mais c'est vrai que quand on allait écouter les réunions de la gauche, on était souvent repoussés au fond de la salle. Mais ça fait rien. Nous, on faisait pareil avec eux. Le tout, c'est de faire du bruit. De se faire voir, de se faire entendre, surtout. Montrer qu'il y a une opposition.
Et aujourd'hui, c'est plus comme ça?
Ben, c'est beaucoup moins. Regardez les campagnes d'affiches. Tous les candidats disent « Faut surtout pas déchirer les affiches des autres. » À quoi ça sert d'en avoir, alors? Tant qu'à faire, l'État paye la première affiche. Si personne ne la déchire, c'est plus marrant. C'est une façon de s'exprimer aussi.
C'est ce que vous faisiez?
Ah bah oui, moi j'ai passé, on a passé des nuits, des soirées tard, avec le pot de colle et le pinceau à surveiller nos affiches. Du temps où on pouvait en mettre partout, on sélectionnait les portails des gauchistes et on allait leur mettre Charles. À l'époque, c'était Charles, quoi. On allait leur mettre Charles sur le portail.
Extrait de votre Monde en soi, réalisé par Mehdi El Hadj. Alors, les réunions contradictoires.
Les réunions contradictoires, on sent effectivement la nostalgie pour ce militant.
Mais vous en avez connu, vous ?
Je n'en ai pas connu, justement. Et c'est ça qui nous avait beaucoup troublés dans ce parcours de campagne en 2002. On avait l'impression d'une campagne qui était très, très atone, qui était finalement organisée, orchestrée par les quelques leaders d'opinion qui
existaient
sur le
terrain. Parce qu'il y avait des tas de trucs dans les réunions contradictoires. Il fallait contrôler notamment l'alimentation en électricité. C'est pouvoir juste couper l'électricité au beau milieu de la réunion de l'adversaire, c'était vous faire marquer des points.
Tout à fait. Alors, on est finalement dans cette nostalgie, on va dire, de la France, de la Troisième, de la Quatrième République, hein, cette France des préaux, où il y a des réunions contradictoires, où il y a des échanges politiques.
Mais en Bretagne, dans votre département, les réunions entre ecclésiastiques et libre-penseurs, par exemple.
Ça existait.
Il y a une réunion d'ecclésiastiques, il y a nécessairement un libre-penseur, et vice-versa.
Exactement. Pour avoir un petit peu travaillé sur, donc, le personnel politique des années 30, et en particulier sur Pierre Trémaintin, qui était un des chefs donc du Parti démocrate populaire, donc des démocrates chrétiens dans les années 20 et les années 30. On constate que l'un des plaisirs, mais aussi l'une des craintes du candidat, c'est d'aller affronter ces réunions contradictoires où on discute, où on échange, où on se bat, mais où la posture du leader existe aussi à travers ses dons d'orateur. On est quand même dans cette république des orateurs et on constate que dans ces années donc 90-2000, cela se perd, mais parce qu'il y a des réinvention de répertoires d'action électorale qui soient effectivement le tractage.
Et alors l'affichage, là en 2002, il s'agit d'affiches de petite dimension. Il arrivait qu'on y mette, quand on les collait, un peu de verre pilé, quoi, pour que l'adversaire qui la lacère soit blessé. Chose impensable aujourd'hui.
Chose impensable aujourd'hui, on assiste à ce que finalement on constate depuis les débuts du suffrage, à savoir une sorte de processus de civilisation électorale qui fait que la violence est mise à distance et que le combat doit être réglé. Hein. On n'en est plus effectivement dans ces joutes qui pouvaient mal se terminer, hein, dans cette cette violence qui pouvait exister. On oublie que lors donc du premier vote universel, le 23 avril 1848, il y a eu une centaine de morts en France. Hein, et aujourd'hui, ça paraîtrait complètement inconcevable qu'on puisse mourir pour des élections.
Il y a même un juge de paix qui présidait le processus électoral, qui était tellement surpris de devoir faire ça. C'était un Haute-Garonne, il est mort. Il a perdu connaissance, il est mort. Le choc était trop grand. Votre militant RPR, il connaît tout le monde et il met les affiches sur les portails des gauchistes. Ça veut dire que toute politique est locale?
Alors, toute politique est locale, surtout dans des petites communes. On rappellera quand même que la moitié des communes françaises sont des communes de moins de 1000 habitants, où on est dans une sphère de l'interconnaissance, hein, où finalement il y a des rôles qui sont plus ou moins assignés, où les parentèles existent encore. Alors, tout cela se recompose en fonction de la périurbanisation, des transformations sociales. Il n'empêche que la politique se fait aussi à travers ces réseaux d'interconnaissance, à travers ce que l'on sait de l'autre, à travers aussi le jeu qui existe avec l'autre.
Oui, mais attendez, il y a quand même l'isoloir. On tire le rideau, c'est l'espace de la délibération intime. Je me souviens, moi, échange de souvenirs, Laurent Le Gall, délégué dans un bureau de vote, la biographe, l'amie de Simone Veil, Simone Pétremant, elle s'installait, elle se tenait debout avec ses papiers, peut-être 3 ou 4 minutes. Et moi, je me disais, voilà, ça c'est l'expression de la rationalité, l'agrégé de philo qui choisit lentement.
Cas exceptionnel. Il suffit de regarder aujourd'hui en combien de temps cela se fait. Acte rudimentaire, comme je le disais. Rituel pauvre, disait Frédéric Bon. Oui, l'isoloir qui naît en 1913, c'est l'isoloir qui, premièrement, doit éviter les allégeances sociales. Hein, c'est-à-dire que la visibilité sociale faisait partie des rapports de domination. Et l'isoloir doit permettre de choisir en conscience. Et puis, deuxième élément, cette idée que dans l'isoloir se détermine le rapport du citoyen avec l'opinion.
C'est quand même la rationalité au travail. Si vous voulez pas l'admettre, c'est quand même un moment d'accélération du cœur.
Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas?
Et où t'es, Jack? C'est horrible.
À voter.
Tu viens dîner chez moi? Je veux pas rester toute seule là. Merde. Je crois qu'il y a rien à manger chez moi. Qu'est-ce que tu préfères? On fait l'amour d'abord ou on fait les courses après?
D'abord les courses, hein, si ça ferme.
Ouais, t'as raison, c'est plus sûr.
On est encore en 2002, c'est le film Le nom des gens de Michel Leclerc. Et la jeune personne a été très émue de voter Jacques Chirac, mais elle est émue aussi de retrouver son amant. Mais les courses d'abord! Ça en dit long, ça, sur la question à quoi ça tient, un vote.
Effectivement, à ce que l'on y met, pourrait-on dire. Et on va y mettre du sens en fonction de ce que l'on est, de son histoire familiale, de son positionnement social, mais aussi de l'offre politique. C'est une alchimie extrêmement complexe, ce qui fait qu'il est difficilement concevable d'entendre parler de l'électeur, alors qu'il faut parler des électeurs, en fonction, effectivement, de l'espace politique tel qu'il existe à un moment donné et de la manière dont on l'investit.
Donc on s'ajuste à une exigence pratique d'une situation.
En termes de justement, effectivement, le vote, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. D'où, effectivement, la difficulté de pouvoir en décrypter les mystères.
Le rideau déchiré, le rideau de l'isoloir, le titre de votre livre, Laurent Le Gall, à voter. C'est aux éditions Anamosa. L'émission a été préparée par Nathan Gallo et Martin Cellier, à la réalisation Gaëtan Collier, à la technique Maxime Ingrand.